Bonjour à chacun de vous et peut-être aussi aux absents qui écouteront cette prédication sur Internet, puisque nous avons la possibilité de les écouter sur le site de l'Église, dont vous avez les coordonnées sur la feuille qui vous est distribuée chaque dimanche. Eh bien, j'aimerais que nous ouvrions notre Bible. J'espère que vous êtes venus avec votre Bible, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Ce chapitre contient trois paraboles qui ont un peu le même thème. La parabole de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue. Toutes les trois paraboles se terminent par ces mots « Réjouissez-vous ». « Réjouissez-vous » au verset 6, « car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue ». Au verset 9, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue ». Et puis dans la parabole du fils prodigue, alors je le cherche, mais je ne le trouve pas parce que je ne l'ai pas noté. Pardon ? Verset 32, il fallait bien se réjouir et s'égayer, mais encore ailleurs aussi je crois, mais voilà. Donc, ces paraboles qui se terminent par l'appel à la joie, à une grande joie. Et c'est celle du fils prodigue, prodigue voulant dire dépensier, celui qui gaspille, que j'aimerais que nous méditions ce matin. C'est une parabole extraordinaire. En fait, Jésus était un personnage de génie, non seulement parce qu'il savait bien raconter des histoires qui marquaient profondément, mais parce qu'il trouvait ces histoires. Le génie d'un écrivain, c'est de trouver une histoire. Le génie de Victor Hugo, ça a été de trouver le personnage de Jean Valjean, de Gavroche, de Cosette. Le génie de Jésus, mais doit-on s'étonner qu'il ait du génie, lui, le Fils de Dieu, c'était d'avoir trouvé cette histoire du Fils prodigue. Et ce qui est extraordinaire avec la Bible, moi qui la lis depuis maintenant plus de 50 ans, c'est que jamais on ne se lasse de la lire. Elle est toujours neuve, elle est toujours fraîche, mais elle a toujours des choses à nous apprendre, toujours quelque chose à nous dire. Et j'avais dans mon enfance ou dans ma jeunesse un pasteur, qui est d'ailleurs resté très longtemps, tout le temps de mon enfance et de ma jeunesse, dans l'église que je fréquentais dans le nord de la France, qui disait que cette parabole du fils prodigue, il fallait donc prêcher sur cette parabole au moins une fois par an. Voilà, pour lui c'était important et je crois qu'il avait raison. Alors je vais lire avec vous cette parabole, puis ensuite nous verrons un commentaire de cette parabole. Parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, mais pas seulement écrites, comme nous le verrons tout à l'heure, sur cette parabole. Mais avant de lire cette parabole, voyons dans quelles circonstances Jésus a raconté cette parabole. C'est le verset premier du chapitre 15 qui nous le dit. Tous les péagers et les pêcheurs, alors les péagers c'était ceux qui s'occupaient des impôts, de récolter les impôts aux portes des villes par exemple, pour les Romains, et les pêcheurs, pour traduire les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens, les intégristes, et les scribes, les hommes de la loi, murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux ». Voilà, c'est pour répondre à ces gens-là que Jésus raconte ces trois paraboles. Alors lisons maintenant, chapitre 15, verset 11. Il dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Voilà ce « réjouissons-nous » que je cherchais tout à l'heure. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Alors ce commentaire, il vous sera projeté, a été fait par un peintre de génie, Rembrandt, dont on se souvient encore aujourd'hui, bien sûr. Rembrandt est né en 1606, il est mort en 1669, il a donc vécu 63 ans. Il était hollandais, en fait Rembrandt c'est son prénom, curieux prénom, Rembrandt. Son vrai nom, alors je ne le dirai peut-être pas exactement parce que je ne connais pas le hollandais, mais c'était Hermansson, fils de Herman, von Rich, quelque chose comme ça. Et il a d'abord commencé une vie assez aisée, assez facile. Il s'est marié avec une femme qui avait beaucoup d'argent. Alors, il a beaucoup dépensé et ses premiers tableaux le montrent aussi, une coupe de vin à la main, en train de se réjouir, en train de faire la fête. Et puis il a eu énormément d'épreuves. Il a perdu sa femme, je crois à l'âge de 30 ans. Trois de ses enfants sont morts assez rapidement. D'ailleurs, sur ses six enfants qu'il a eu en tout, une seule fille, lui a survécu. Cette femme, il l'aimait énormément, et puis elle est décédée assez jeune. Il a dû vendre sa maison parce que ses créanciers ont frappé à la porte pour lui réclamer de l'argent. Ses tableaux ne lui rapportaient pratiquement rien à l'époque. Aujourd'hui, ça coûte une fortune. Et parmi ses derniers tableaux, il y en a un, qui se trouve là. Mais il n'est pas entier, là. Il manque une partie du bas, hein. Il manque une partie inférieure. Ce tableau a été peint peu de temps avant sa mort, donc dans sa vieillesse. Et c'est le commentaire, puisqu'il a intitulé ce tableau « Le retour du fils prodigue ». Ce tableau se trouve aujourd'hui, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de le voir. Si vous y allez, dites-le-moi, payez-moi le voyage, j'aimerais bien aller avec vous. À Saint-Pétersbourg, en Russie, sur les bords de la mer Baltique, deuxième ville de Russie aujourd'hui après Moscou. Saint-Pétersbourg, qui s'appelait il n'y a pas encore longtemps Leningrad, Grad voulant dire ville en russe, donc ville de Lénine. Et après les événements de 89, de la chute du communisme, cette ville a retrouvé un de ses premiers noms, Saint-Pétersbourg, puisqu'elle a été fondée par Pierre le Grand. Mais d'après ce que j'ai lu, on peut trouver des choses extraordinaires sur Internet. Hein. Tout ce que je vous dis là, je l'ai lu sur Internet et vous pourrez retrouver ce tableau aussi sur Internet. Ce n'est pas le nom de ce tsar qui a été donné à la ville, mais le nom de l'apôtre Pierre. Hein. Pierre, voilà, donc la ville de l'apôtre Pierre. Ah, voilà, très bien. Voilà, merci. Voilà donc le commentaire de Rembrandt sur le fils prodigue. Alors Rembrandt était un maître en jeu de lumière dans ses tableaux. Il était maître en clair-obscur. Voilà. On peut voir qu'une partie du tableau est dans le noir, dans les ténèbres. D'ailleurs, en haut à gauche, on aperçoit très 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 vaguement la face d'une femme. Et puis il y a trois personnages aussi dont l'un, uniquement celui de droite, est éclairé. Et bien sûr, toute la lumière est mise sur le Père et le Fils prodigue qui est de retour. Le Fils prodigue est pieds nus. Il lui manque une chaussure où elle est à moitié défaite, l'autre est abîmée. Sa robe est déchirée en bas. Il a le crâne rasé, un peu comme les forçats de cette époque. Et puis il y a bien sûr le père qui est le personnage principal de cette œuvre. Le père qui est un vieillard, probablement comme Rembrandt était un vieillard à cette époque. On voit dans son regard qu'il est plus ou moins aveugle. Et puis il y a sa cape, une cape rouge, royale, celle que portaient les gens riches, les gens aisés. Et cette cape entoure par ses bras aussi le corps, la tête de ce fils prodigue. Et puis il y a surtout ses mains, les mains de Rembrandt. Elles ne sont pas identiques. La main à notre droite, sa main gauche, est forte. C'est une main qui montre que c'est un homme fort qui avait de la poigne. Alors que l'autre main, les doigts sont effilés, c'est une main féminine. Et je crois que Rembrandt a voulu montrer par là que chez ce père, il y a beaucoup de tendresse, et même de tendresse féminine. Et puis il y a ces trois personnages, on ne sait pas trop qui ils sont exactement, mais les commentateurs pensent que le personnage qui est debout, à droite, c'est le fils aîné. Il a plus ou moins la même cape rouge que son père, mais au lieu d'entourer, d'englober son fils, elle est droite, droite comme la loi, droite comme un i. Il a le regard sévère, peut-être un peu perplexe. Et puis les mains sont croisées, on ne sait pas trop si elles vont s'ouvrir ou si elles vont se refermer, si les poings vont se refermer, on ne sait pas bien. J'ai oublié de dire qu'à la ceinture du fils, il y a une épée, une dague. C'est curieux, pourquoi ? Pourquoi une épée, une dague ? Probablement pour montrer que cette famille était une famille assez noble et que le fils, dans sa déchéance, n'a jamais perdu sa dignité de fils, sa noblesse, même s'il était tombé très bas. Alors voilà l'interprétation curieuse, étonnante de Rembrandt sur cette histoire que Jésus a racontée, le fils prodigue. C'est une histoire assez déroutante et j'espère qu'elle nous étonne toujours. Ce jeu de lumière entre le sombre et le clair, ce clair obscur, nous montre que c'est ce qui se trouve dans la réalité de notre monde. Il y a les ténèbres et la lumière. L'apôtre Jean dira que nous ne sommes plus, nous les enfants de Dieu, dans les ténèbres, mais que nous sommes dans la lumière et qu'il nous faut agir comme un enfant de lumière, comme des enfants de lumière. La lumière ici, c'est le Père et le Fils. Peut-être un peu le Fils aîné, mais nous ne savons pas, et Jésus ne nous dit pas ce qu'est devenu ce Fils aîné. Comment il a ensuite réagi aux paroles du Père, mais il faut se réjouir, car ton frère qui était mort, voici, il est revenu à la vie. On ne sait pas, Jésus ne nous dit pas dans l'histoire ce qu'est devenu ce deuxième fils. Et puis il y a tous ces personnages un peu énigmatiques qui réfléchissent, qui sont là comme des témoins. Mais c'est un peu nous aussi. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu, de l'amour incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer de cet amour qu'on a de la peine à comprendre, qu'on a de la peine à cerner, tellement il est grand. Tout à l'heure, Pierre-Yves nous a dit que nous ne pouvons pas mesurer l'espace. Il est tellement grand, tellement infini que cela nous dépasse indéfiniment. Nous ne pouvons pas le saisir, c'est trop grand. Eh bien, l'amour de Dieu est à la mesure de sa puissance, de sa grandeur, de la création, de l'univers. Nous ne pouvons pas le saisir. Il nous étonne, il nous surprend, il nous provoque même. Ce Père et ce Fils. Ce Père qui accueille ce Fils comme si rien ne s'était passé. C'est un scandale. C'est un scandale parce que il s'est passé quelque chose. Alors, qui est ce Fils ? Bien sûr, tous ceux qui ont mené une vie dissolue, un peu comme Rembrandt sans doute, et qui un jour, comme le Fils, on réfléchit, sont, j'aime bien cette expression, rentrés en eux-mêmes, sont rentrés en eux-mêmes. Et là, dans le silence ou peut-être la tourmente de leur cœur, ont eu un dialogue avec eux-mêmes. Et aussi, je crois, sans peut-être même le savoir, avec Dieu. J'irai chez mon Père, je retournerai chez mon Père, je retournerai à la maison. Nous sommes là ici, probablement sur le pas de la porte, on voit une marche d'escalier de la maison de ce Père, de ses fils, de ses serviteurs. Mais la maison dans la Bible, c'est la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est là où Dieu est. Alors bien sûr, Dieu est partout, mais Dieu est particulièrement, puisqu'il est saint, dans le lieu saint, et il veut aussi faire de notre corps sa maison, habiter en chacun de nous. Et tant que nous ne sommes pas dans la maison, ou parfois même lorsque nous nous en éloignons, lorsque nous péchons, lorsque nous nous écartons de Dieu, de sa volonté, de ses commandements, nous ressemblons à ce fils prodigue. Nous sommes ce fils prodigue. Ce fils prodigue, c'est donc chacun d'entre nous, un degré plus ou moins élevé ou dans des circonstances plus ou moins différentes. Et puis, ce fils aîné qui regarde sans que l'on sache ce qu'il pense vraiment. Il a le regard tourné vers le sol. On ne sait pas bien ce qu'il pense, mais on voit dans l'histoire que raconte Jésus qu'il est en colère, qu'il n'est pas content, que c'est un fils qui n'a pas compris ce que c'est que, non pas l'amour de son père, mais la relation avec son père. Une relation d'amour, une relation de joie aussi. Réjouissez-vous, il fait la fête. Dieu ici est un Dieu, puisque ce père, bien sûr, c'est Dieu, puisque ce père fait la fête, veut que nous nous réjouissions, que nous soyons joyeux. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Philippiens. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et la Bible du Semeur traduit ce « dans le Seigneur » de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Ça ne veut pas dire que quand on est dans le deuil, il faut danser de joie. Ça ne veut pas dire que quand on a mal, parce que soit qu'on a mal aux dents, soit qu'on est opéré ou on a une grave maladie, il faut sauter de joie. Réjouissez-vous, oui, de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Dieu veut que nous réjouissions et ce frère aîné, ce fils aîné ne savait pas se réjouir comme nous souvent. Nous ne savons pas nous réjouir parce que, eh bien, nous sommes toujours enclins à juger les autres ou à faire de la parole de Dieu une loi, quelque chose de rigide. Attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Alors c'est vrai, bien sûr, je ne dis pas que quand on est chrétien, il faut faire n'importe quoi, loin de là. Mais il faut le faire par amour et il faut savoir aussi se réjouir. Notre Dieu est un Dieu qui nous appelle à la joie, à la réjouissance. Alors ce frère aîné, c'est aussi nous, chacun d'entre nous, parce que voilà, on a peut-être parfois de la peine à accueillir aussi certaines personnes dans notre église, parce que voilà, elles sont peut-être un peu perturbantes. Et puis ce Père, bien sûr ce Père, c'est Dieu dans son amour. Et Jésus explique dans cette parabole que ce Père n'est pas le Dieu des pharisiens et des scribes, comme Pascal, le philosophe, a écrit lors de sa conversion. Il a écrit le testament de Pascal, et cela a été retrouvé dans la doublure du vêtement qu'il portait au moment de sa mort. Dieu, non pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus, c'est-à-dire de ceux qui ont eu une relation personnelle avec Dieu, de ceux qui ont marché sur cette terre avec Dieu, de façon très proche, à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu s'est fait connaître. Ce Père, bien sûr, c'est un Père qui aime d'un amour incompréhensible. Mais ce Père doit être aussi nous, chacun d'entre nous, même si nous sommes une femme, parce qu'il nous appelle à aimer comme lui a aimé, à pardonner comme lui a pardonné. Et l'Évangile ira jusqu'à dire, je crois que c'est dans Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Il nous appelle à la perfection. Alors, je vais m'arrêter là. J'avais prévu de vous parler du fils cadet, mais ça sera pour la prochaine fois. Mais voilà le commentaire de Rembrandt. Et puis, il y a ces témoins que nous sommes aussi, hein, puisque voilà, nous sommes témoins de l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce qu'il fait dans les cœurs et dans les vies. Eh bien, relisons cette parabole. Peut-être avec un regard nouveau. Lisons-la aussi pour nous en imprégner, pour que nous puissions aussi vivre cette parabole nous-mêmes. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole si riche, si belle, pour ces personnages, ceux qui ont vécu, comme Abraham, Isaac et Jacob, mais ceux aussi qui ont été inventés, comme tu le fais dans cette histoire du fils prodigue. Merci Seigneur, parce que tout cela nous parle de toi, de ton amour si grand, si fort, si incroyable, si surprenant. Merci Seigneur de nous surprendre encore aujourd'hui. Merci Seigneur de nous aider aussi à mettre en pratique cette parole. Bénis encore ta parole dans nos cœurs et donne-nous toujours le goût de la lire, de la relire, de la méditer et d'en recevoir ta parole, notre nourriture spirituelle. Amen.